Et pour démarrer comme tous les soirs, le journal d'abord, toute l'actualité de la journée avec vous Hélène Roussel, bonsoir.
Bonsoir.
L'essentiel de ce jeudi, c'est le procès France Télécom qui se poursuit avec les tout premiers témoignages de victimes, Hélène.
Et 10 ans après la vague de suicides, les anciens patrons comparaissent pour harcèlement moral. Un ancien employé raconte les années noires. Corinne Audouin, en direct du Palais de Justice, nous résume dans une minute. Le Conseil de défense écologique, nouvelle instance du gouvernement issue du grand débat. Quelques annonces ce matin. Plus de prêts pour la rénovation énergétique, plus de zones naturelles protégées. Pas suffisant, dit Greenpeace. Dans l'actualité encore, rejet du pourvoi pour Marine Le Pen. Elle doit 300 000 euros au Parlement de Strasbourg. Ambiance surréaliste au Royaume-Uni. Les Britanniques votent pour les européennes sans savoir s'ils feront encore partie de l'Union ces prochains mois. Et puis non, les yaourts ou les steaks au soja ne sont pas si bons que ça pour la santé. On vous dit tout à la fin du journal.
À 18h15, un jour dans le monde, un crime a été commis au Parlement à Bruxelles. Une parlementaire est morte, elle travaillait sur une affaire de diesel. Comme on est forcément monomaniaque sur l'Europe en ce moment, je vous emmène dans un polar qui vous fera voir les institutions européennes d'un autre œil. Vous comprendrez mieux d'ailleurs comment ça marche et on le verra avec notre premier invité. Ce soir, nous sommes aussi au Pakistan pour l'escale reportage, ce sera avec Géraldine Allot. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, je nous invite tous à nous pencher sur nos incohérences de transition écologique. Regardez, même si le projet a été reculé, on songe à troquer le fret pour la route entre Perpignan et Rungis. Ça a été beaucoup commenté. L'État manque parfois terriblement de jugeote écolo, mais nous aussi, quand on dit oui à l'énergie renouvelable, mais qu'on ne veut pas, par exemple, d'éoliennes dans le jardin, ni de panneaux solaires dans les champs. Les exemples sont multiples. Parlons-en ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Troisième semaine donc de procès pour les ex-patrons de France Télécom.
Poursuivis pour harcèlement moral, accusés d'avoir mis en place toute une politique de déstabilisation et d'avoir instauré un climat anxiogène dans l'entreprise. Rappelez-vous, 2006, plan de départ gigantesque, 22 000 postes à supprimer sur 3 ans, 18 salariés vont se suicider, 13 autres font des tentatives dans les années qui suivent. C'est devenu l'affaire France Télécom. 10 ans plus tard, les souffrances intactes demeurent. Corinne Audouin, vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Premier témoignage édifiant aujourd'hui. D'anciens salariés partie civile.
Oui, Daniel Doublé est un homme élégant de 71 ans, veste, cravate, cheveux gris. Il est entré à France Télécom en 1975. Il a dirigé plusieurs centres d'exploitation technique. C'est en 2004 que tout commence à dérailler. Il est démis de son poste de directeur de l'unité réseau en Martinique pour cause de réorganisation. Chargé de mission, affecté à Besançon en 2006, il n'a rien à faire. Ça a duré 3 ans et demi, raconte-t-il d'une voix émue. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est rester si longtemps sans travail. Vous êtes connu comme celui qui ne fout rien. Toutes les semaines, je quittais ma famille à Paris pour aller ne pas travailler à Besançon. C'est démoralisant. Pourtant, il postule à 32 reprises sur des postes internes en région parisienne, en vain. On lui supprime la part variable de son salaire. On me disait que j'étais un bon à rien, un parasite. Daniel Doublé n'a pas craqué, n'est pas parti. Je n'ai pas fait de dépression caractérisée, dit-il, mais j'ai été meurtrie, humiliée. Jusqu'à 55 ans, mes appréciations étaient bonnes. J'avais une relation de confiance avec ma hiérarchie. C'était des gens honnêtes, remplacés par des gens malhonnêtes. Daniel Doublé a fini par retrouver un poste en 2010, après le départ de Monsieur Lombard, dit-il. Sur le banc des prévenus, l'ex-PDG ne répond pas.
Corinne Audouin, merci. On suit ce procès France Télécom avec vous sur l'antenne et en live tweet aussi. Que va devenir la scierie ex-Ascoval de Saint-Sauve dans le Nord? 270 salariés. Les autorités britanniques ont annoncé hier la liquidation judiciaire du repreneur British Steel. Réunion de crise cet après-midi au ministère de l'économie. Le ministre Bruno Le Maire a tenté de rassurer syndicats et élus. British Steel, dit-il, tiendra ses engagements. Inquiet pour la suite, c'est vrai aussi chez Auchan. Une centaine de personnes devant le siège à Croix dans le Nord ce matin contre les suppressions d'emplois. Auchan a annoncé il y a 3 semaines qu'il allait vendre une 20aine de sites en France. Entre 700 et 800 salariés sont concernés. Et puis au chapitre social encore, nouvelle manifestation des professionnels de la petite enfance un peu partout en France contre la réforme des normes dans l'accueil des tout-petits.
Issue tout droit du grand débat, la création d'un conseil de défense écologique. Première réunion ce matin, Hélène.
13 ministres autour d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron et quelques annonces. Une augmentation d'1 milliard d'euros des prêts pour la rénovation énergétique des logements sociaux ou encore cette hausse de 3 milliards des prêts, toujours pour les collectivités locales. Ce conseil, c'est surtout un changement dans la méthode pour le Premier ministre Édouard Philippe.
Très peu de pays ont fait autant que la France en matière de transition écologique ces dernières années. Mais après avoir constaté que nous avons fait beaucoup, nous pouvons sans doute considérer que nous n'allons pas assez vite, peut-être pas assez loin encore sur ce sujet. Toutes les politiques publiques doivent être irriguées par cette préoccupation. L'ensemble des politiques publiques, portées par l'ensemble des responsables publics, doit prendre en compte et intégrer les logiques de préservation du climat et de préservation de la biodiversité.
Édouard Philippe a aussi évoqué l'incompatibilité du projet minier de la Montagne d'Or en Guyane avec les exigences environnementales. Il a confirmé aussi l'objectif que 30% de notre territoire soit classé zone naturelle protégée. Rien de très neuf sous notre soleil pour Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France. Le gouvernement radote un peu.
On s'attendait à quelque chose d'extrêmement ambitieux qui allait changer totalement la donne sur la question de la transition écologique. Et on n'a pas entendu ça. On a aujourd'hui de la confusion sur l'avenir de ce projet minier, la Montagne d'Or en Guyane. On a entendu quelques annonces sur le renforcement d'une réserve marine, sur la rénovation des bâtiments, mais rien qui soit de l'ordre des changements structurants dont on a besoin pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique et accélérer la lutte contre la perte de biodiversité. Donc on reste sur notre faim, quelque part.
Réaction recueillie par Sandy Dauphin. Les opposants politiques, à commencer par les militants d'Europe Écologie, vont plus loin, eux, dans la critique. S'acheter une conscience verte à 3 jours des européennes, la ficelle est un peu grosse, disent-ils. Ce conseil de défense écologique, quant à lui, doit se réunir à nouveau en juillet. Ça aussi, c'était une des réponses d'Emmanuel Macron au grand débat et à la crise des Gilets jaunes. Le RIP, le référendum d'initiative partagée, en théorie, parlementaires et citoyens peuvent déclencher un référendum. Mais après le RIP contre la privatisation d'Aéroports de Paris, contre donc le projet du gouvernement, Adrien Taufolet, Matignon et Chaudet pourraient bien lui raccourcir les moustaches à ce concept du RIP.
Et tout ça à cause d'une faille que personne n'avait remarquée, concède-t-on à Matignon. Rien d'étonnant, la procédure du RIP a été activée pour la première fois cette année. La Constitution dit actuellement il ne peut y avoir de référendum sur un sujet qui fait l'objet d'un texte promulgué depuis moins d'un an. Dans le cas ADP, le texte a été adopté mais pas encore promulgué. L'opposition au Parlement s'est donc engouffrée dans la brèche avec le succès qu'on lui connaît. Pour Édouard Philippe, c'est un outil de blocage, le RIP, de contestation de la représentation nationale telle qu'il est. Il faut empêcher qu'un texte examiné au Parlement ou tout juste adopté soit remis en cause, peut-être même plusieurs années après la promulgation, mais rien n'est acté à ce niveau, confie Matignon. L'opposition, elle, dénonce une entourloupe. On élargit le RIP d'un côté pour mieux le raccourcir de l'autre, constate le député socialiste Boris Vallaud.
Dans le cadre des conclusions du grand débat, le président de la République annonce qu'il envisage d'en faciliter le recours. Mais dès lors que c'est utilisé contre les projets du gouvernement, il finit par évoquer la possibilité d'en restreindre la possibilité. Donc vous savez, moi je crois que dans le moment que nous vivons, le gouvernement ne peut pas faire du démocratie participative washing.
Ce n'est en rien le principe du RIP qui est remis en cause avec ce futur ajustement, rétorque un proche d'Édouard Philippe. La réforme constitutionnelle arrive avant l'été, c'est une aubaine, l'exécutif craint qu'il soit à nouveau utilisé le RIP et à juste titre dans l'opposition, certains ne cachent pas avoir apprécié l'efficacité de cet outil.
Adrien Taufolet du service politique de France Inter. En bref, après la journaliste du Monde, Ariane Chemin, convoquée par la DGSI suite à son article concernant l'affaire Benalla, ça continue. On apprend que le président du directoire du journal Le Monde, Louis Dreyfus, est également convoqué mercredi prochain. Et puis Marine Le Pen dénonce encore une boule puante et de basse manœuvre. La justice européenne a rejeté son pourvoi. Elle devra bien rembourser 300 000 euros au Parlement de Strasbourg. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants. Notre réponse se lira dans les urnes, contre attaque encore Marine Le Pen sur Twitter. Le scrutin pour les européennes dimanche en France, mais coup d'envoi sifflé par les Pays-Bas et le Royaume-Uni aujourd'hui. Une élection à laquelle les Britanniques n'auraient même pas dû participer 3 ans après avoir voté le Brexit. Alors, est-ce qu'envoyer 73 représentants au Parlement européen, c'est pour du beurre? Bienvenue chez Ubu. La confusion est totale, d'autant que le dernier plan d'urgence pour assumer le Brexit présenté par Theresa May cette semaine ne sera pas voté tout de suite et que la Première ministre doit, dit-on, démissionner dans les jours qui viennent selon le Times. Comment, dans ces conditions, glisser son bulletin dans l'urne avec conviction? Il faut avoir l'espoir chevillé au corps, comme Francis, retraité électeur à Tilbury, près de Londres.
Oui, j'ai voté pour le Green Party. Je les ai préférés au Labour cette fois. Sortir de l'Union européenne, c'est insensé. À la fin, ça va nous coûter très cher, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. À plusieurs, on est plus solide, ça veut dire, par exemple, plus d'opportunités d'emploi un peu partout. Avec la perspective d'une sortie, on l'a vu, plusieurs entreprises ont déjà mis la clé sous la porte.
Un électeur britannique, Francis, avec notre envoyée spéciale Sandrine Etoa Andegue. L'argent du pétrole, celui du Qatar en l'occurrence, aurait-il servi à payer des pots de vin pour pousser la candidature aux mondiaux d'athlétisme 2017? Le président du PSG, le Qatari Nasser El Khelaifi, a été mis en examen aujourd'hui pour corruption active. Le Qatar qui organise les mondiaux d'athlétisme cette année, finalement en septembre, 3 ans avant la Coupe du Monde de foot.
Il est 18h10 sur France Inter. Hélène, les élections législatives en Inde, pas de surprise. Les nationalistes derrière le Premier ministre Narendra Modi revendique la victoire.
Le dépouillement toujours en cours, mais les jeux sont faits et de loin, avec déjà 300 sièges sur 542. Les nationalistes hindous triomphent. Narendra Modi file tout droit vers un deuxième mandat. Le BJP, le Bharatiya Janata Party, exulte. Reportage au siège, Sébastien Farcy.
Les gens ont voté pour le bon gouvernement, pour celui qui les aide, affirme ce militant. Il a mis en place beaucoup de programmes pour les jeunes comme lui, dit-il, et a fait de l'Inde un grand pays qui est respecté à l'étranger. Pour un autre partisan sexagénaire, c'est une affaire de sécurité nationale. Je suis un patriote, soutient cet homme. Modi est un héros mondial, il a combattu le terrorisme et il n'y a que les terroristes qui sont opposés à Modi. Juste avant les élections, une attaque d'islamistes pakistanais a frappé le Cachemire indien et le gouvernement de Modi a répliqué en attaquant le Pakistan. Ce climat de guerre a ensuite été exploité par le BJP. Ce gouvernement a prouvé que toute personne qui attaque l'Inde sera combattue par nos forces de sécurité et sera punie, nous confie Aman Sinha, un porte-parole du parti. Ce thème de la sécurité a totalement dominé la campagne et permis de faire passer au second rang les graves problèmes de chômage et de crise de l'agriculture indienne. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
La Chine et les suites du dossier Huawei, ça ne s'arrange pas avec les États-Unis. Washington accuse l'opérateur de mentir sur ses liens avec les autorités chinoises. Pékin répond que c'est du harcèlement. On en reparle dans le journal de 19h. Question de santé publique, de quoi tendre l'oreille en tout cas si vous consommez du lait de soja, des yaourts au soja ou encore des steaks au soja. Il y a selon UFC Que Choisir beaucoup trop de perturbateurs endocriniens dans ces produits. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
L'association va même demander une nouvelle expertise à l'agence sanitaire.
Oui, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on mette à jour les seuils acceptables. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a en effet déjà fait des recommandations sur le soja, mais cela date de 2005 et de l'état des connaissances scientifiques de l'époque. Or, aujourd'hui, on sait ce qui cloche dans la consommation de ces produits industriels transformés et le seuil maximal par jour qu'il faudrait fixer. Ce n'est plus 1 mg par kilo corporel par jour, mais jusqu'à 100 fois moins selon des études américaines. Chez les moins de 3 ans, l'ANSES recommandait déjà en 2005 de ne pas donner de tofu, de produits laitiers ou de yaourt au soja, donc à ses enfants, idem pour les femmes avec antécédents de cancer du sein. La substance en jeu, les isoflavones contenus dans le soja, ont en effet une activité hormonale proche des oestradiols et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un perturbateur endocrinien. En consommer n'est pas anodin et cela même si les bénéfices nutritionnels du soja sont par ailleurs avérés. Car on a compris dans les années 80 une chose qui explique que les Asiatiques grands consommateurs n'avaient pas de problème, c'est que les recettes anciennes se faisaient après une période de trempage de 2 heures minimum et un renouvellement de l'eau, c'est le cas pour le tofu. Ce procédé permet d'enlever du soja ses phytoestrogènes car ils sont solubles dans l'eau.
Ça devient compliqué de bien manger. Merci Sophie Bécherel. Il y en a qui montent les marches à Cannes et ceux qui foulent les planches du Théâtre des Célestins à Lyon en ce moment. Nouvelle version de la Place Royale de Corneille, mise en scène de Claudia Stavicky. Une pièce de jeunesse de Corneille sur les amours adolescents, interprétée par une troupe de jeunes acteurs fougueux. Ils ont emporté avec eux l'enthousiasme de Stéphane Capron.
Corneille écrit la pièce à 28 ans. Il la retravaille sur la fin de sa vie pour en épurer la langue. C'est une ode à l'amour et à la liberté, faite de passions amoureuses et de crises de jalousie. Claudia Stavisky redonne à Corneille sa fraîcheur d'adolescent avec sa troupe de comédiens qui ont l'âge des rôles.
Pour moi, c'était essentiel de prendre de très jeunes acteurs, parce que c'est des très jeunes personnages. Donc, pour entendre vraiment la totalité, toutes les harmoniques de ces alexandrins-là et toute la complexité de la pensée des Corneilles, il fallait vraiment qu'on soit dans la situation d'être en face de ces jeunes gens-là. Le pari était de faire de l'alexandrin leur langue maternelle. C'est là-dessus qu'on a énormément travaillé, techniquement, mais énormément, on ne se rend pas compte. C'est comme les pianistes, hein. Ils ont fait leur gamme avec une exigence et une rigueur absolue pendant des mois.
La mise en scène est rondement menée, la scénographie est somptueuse, féerique, elle se transforme au fil des actes pour transporter les personnages dans une forêt imaginaire. Le jeu des comédiens est totalement décomplexé, les alexandrins sont à vif, leur travail sur la langue est est exemplaire. On sort le cœur serré et attendri par ses premiers émois amoureux qui datent du XVIIe siècle.
Place Royale de Corneille au Théâtre des Célestins à Lyon. Pour ceux qui sont sur place ou que ça intéresse, c'est jusqu'au 29 mai, ça veut dire mercredi prochain.
Allez, merci beaucoup Hélène Roussel.